Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, nous dit Jésus-Christ, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Alors on peut comprendre cette question de Pilate de différentes façons. On peut y voir la marque d'un scepticisme finalement, comme s'il n'existait pas de vérité, ou bien qu'elle est impossible à atteindre et donc que c'est un peu inutile de la rechercher. Jésus est alors une sorte de baratineur quand il dit qu'il est là pour rendre témoignage à la vérité, ou bien c'est un doux rêveur. Mais finalement, l'attitude de Pilate serait alors un peu celle des athées de notre temps, pas l'athée qui a une recherche philosophique, mais celui qui est athée de fait, c'est-à-dire simplement se contentant de vivre à l'écorce de l'existence, se laissant simplement entraîner par les événements comme ils arrivent, sans avoir de réflexion sur une visée profonde. Alors je crois que cette façon de comprendre l'attitude de Pilate à ce moment-là n'est pas possible. En effet, si on regarde le déroulement de l'histoire, après cette question que Pilate pose à Jésus, eh bien, on voit que l'attitude de Pilate est en fait tout à fait favorable à Jésus, au point de le soutenir et de témoigner pour lui devant la foule. Littéralement, on le voit dans ce texte, Pilate dit à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» et tout en disant cela, c'est comme ça que c'est écrit dans le grec, tout en disant cela, Pilate sortit à nouveau vers les Juifs et dit « Je ne trouve rien à redire dans cet homme, aucune faute en lui. » Alors effectivement, ne trouver aucune faute dans un homme, ne trouver rien à redire dans quelqu'un, cela veut dire qu'il est finalement l'homme parfait. Et c'est bien cela dont témoignera Pilate un tout petit peu après, quand il dira cette célèbre phrase « Voici l'homme » qui est même connu par moi, qui ne suis pas du tout latiniste dans, je dirais, la langue de Pilate, puisque au Louvre, il y a des dizaines de tableaux où il y a marqué « Ecce homo ». Enfin, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, mais nous le connaissons finalement dans la langue même de Pilate, tellement cette phrase est connue. « Voici l'homme », c'est-à-dire l'archétype de l'humain parfait. Et donc, si l'on regarde de près ce passage, Pilate est à ce moment-là finalement, quand il se pose cette question et quand il va témoigner en faveur de Jésus devant la foule de sa perfection, Pilate est un croyant fidèle. Et c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment fondamental de se poser cette question, qu'est-ce que la vérité ? Et que c'est formidable, encore mieux, de se la poser en relation avec le Christ, de se la poser devant le Christ. Et pas seulement de se la poser devant le Christ dans une sorte de contemplation ou dans une sorte de réflexion philosophique, théologique, mais dans l'action. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on se pose cette question « qu'est-ce que la vérité ?», être déjà dans l'action, dans le témoignage pour Jésus-Christ. Et je crois que ces deux dimensions sont essentielles, celle d'un questionnement avec Jésus et par Jésus, et puis celle d'un témoignage, de rendre témoignage à la vérité. Et c'est cela qui est effectivement la vérité, puisque Jésus nous dit que c'est cela, sa façon d'être, sa vocation, de naître et de vivre en témoin de la vérité. Eh bien, à ce moment-là, Pilate est dans une certaine mesure un peu christique. Pilate confesse que Jésus est sans faute. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à redire, ce n'est pas simplement qu'on ne trouve pas en lui de crime ou je ne sais quoi, mais qu'il est l'archétype, il est le type de l'humain parfait finalement, comme le modèle. À ce moment-là, bien que partagé, bien entendu, comme nous tous, Pilate est quand même supérieur à tous les apôtres, nous l'avons vu, les apôtres ont abandonné à ce moment-là Jésus. Mais pour comprendre ce que c'est que cette question, qu'est-ce que la vérité, je crois qu'il est intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot dans le langage de la Bible. En effet, si vous voulez, dans le français courant, eh bien, il y a une certaine conception de la vérité qui n'est pas du tout celle de la Bible. En effet, dans le français courant, si vous voulez, la vérité, c'est une parole qui est conforme à ce qui est réel, ce qui est finalement la réalité. Par exemple, si je vous montre un billet de 5 euros que j'ai dans ma poche, ben voilà, c'est un billet de 5 euros. Il y a exactement 5 euros, il n'y en a ni 6, ni 4,5. 5, c'est 5. Et donc voilà la conception, si vous voulez, de la vérité que nous avons, c'est-à-dire une réalité qui était cachée comme dans ma poche et qui est dévoilée. En grec, c'est ça, aletheia, c'est une réalité que l'on peut, je dirais, sortir de l'obscurité pour la mettre en lumière et pour dire ce qui était caché. Mais dans l'hébreu, si vous voulez, dans la langue, dans la conception de la Bible, la notion de vérité n'est pas la même. Et le mot emouna, rien qu'en l'entendant, vous entendez que c'est le même mot, la même racine que le mot amen, encore un mot hébreu que nous connaissons bien. C'est-à-dire que ce mot emouna, que l'on traduit par vérité, il veut dire tout aussi bien la fidélité. Et d'ailleurs, ce même mot emouna dans la Bible, dans l'Ancien Testament, est traduit tantôt par vérité, tantôt par fidélité, car un seul et même mot veut dire les deux. Et donc, c'est cela que la vérité, au sens de la Bible, c'est une vérité de relation. C'est une vérité, je dirais, de confiance, une vérité de fidélité. Voilà ce que c'est que ce dont parle Jésus ici, c'est la fidélité. Et c'est ainsi, je dirais, dans l'Évangile selon Jean, et cela éclaire notre compréhension de ce qui est en cause. Et ce n'est pas du tout négligeable, parce que, comme nous l'entendons ici, Jésus dit que sa vocation, le sens même de toute sa vie, c'est de rendre témoignage à la vérité. Alors on pourrait dire que c'est donc une vérité au sens d'une façon d'être. C'est une vérité qui est la façon d'être de Dieu lui-même, finalement. Ce n'est pas simplement une vérité du dogme, comme pourraient le penser des philosophes grecs. Et effectivement, quand on regarde de plus près, particulièrement dans l'Évangile selon Jean, l'Évangile nous dit qu'il est question de faire la vérité. On ne peut pas faire la vérité au sens d'un dogme, si vous voulez. Faire la vérité, c'est chercher Dieu avec espérance, avec confiance. C'est agir avec bienveillance, agir dans une loyauté, dans une fidélité aux autres. Et puis aussi, c'est agir dans une fidélité à nous-mêmes, à notre vraie nature, à notre nature profonde. Et comme le dit Jésus ici, phrase incompréhensible pour un philosophe, si vous voulez, grec, « Quiconque est de la vérité, écoute ma parole. » Un philosophe grec, il dirait l'inverse. Il dirait, par exemple, « Quiconque écoute, entend les paroles de ma bouche, alors connaîtra la vérité. » Mais vous voyez, chez Jésus, c'est l'inverse. La vérité, elle est première. C'est une façon d'être qui nous ouvre les oreilles pour entendre ce que Jésus dit. Ce n'est donc pas une révélation d'un dogme, si vous voulez. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une connaissance, cette vérité qui nous vient en Jésus-Christ. Non, c'est une façon d'être, c'est une espérance, c'est une fidélité. Et donc, la grande nouveauté, je dirais, de l'Évangile, c'est que la vérité, ce n'est pas un dogme, mais que c'est une façon d'être, que c'est un cheminement et une vie. C'est ce que nous dit Jésus quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On ne peut pas être un dogme, pas même un dogme incarné. On peut être la vérité que dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire on peut être une vie faite de fidélité, faite d'espérance. Oui, ça, c'est ce qu'incarne le Christ, finalement. Et cette vérité, elle se manifeste particulièrement dans cette situation extrême qu'est la croix, finalement. Mais si par bonheur Jésus n'avait pas été exécuté, cela ne tenait en fait qu'à quelques voix, je dirais, dans le Sanhédrin, et nous savons ce que c'est qu'un mouvement de foule, si vous voulez, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre très facilement. Si Jésus n'avait pas été exécuté, il aurait quand même été dans la vérité, dans sa façon finalement d'être, de vivre, de parler, d'espérer. Il aurait encore été cheminement, il aurait encore été vie. Eh bien, cette vérité qu'est le Christ, ce n'est pas quelque chose à connaître. Même si la théologie, la réflexion, le savoir peuvent aider finalement dans ce cheminement. Et donc, par exemple, l'annonce de l'amour de Dieu, ça peut nous donner envie de le chercher avec confiance, avec espérance. Et alors dans cette démarche qui est la nôtre, nous sommes alors dans la vérité telle que Jésus l'entend, telle que Jésus l'incarne. Et alors, oui, on peut se mettre à l'écoute de ce que Jésus dit. Peut-être ne l'entendrons-nous pas tout à fait, peut-être ne le comprendrons-nous pas tout à fait, mais nous serons néanmoins dans la vérité par cette espérance, cette démarche, ce cœur tourné vers Dieu en Christ. Et finalement, je dirais, tous ceux qui cherchent à entendre ainsi cette vérité, cette fidélité qu'est Dieu, dans un certain sens, ils sont déjà dans la vérité. C'est ce que dit Pascal, finalement, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. C'est-à-dire que celui qui cherche déjà, celui qui veut avoir la foi, est déjà dans cette vérité qui est espérance, qui est cheminement, qui est ouverture, qui est écoute. Alors l'un entendra, par exemple, peut-être pensera d'une certaine façon, aura une certaine théologie, aura une certaine vocation. Un autre aura peut-être une autre théologie, peut-être même une autre religion, une autre vocation, mais l'un et l'autre pourront être tous les deux dans la vérité si chacun a été mis en mouvement, finalement, par ce cœur tourné vers Dieu. L'un entendra, par exemple, que sa vocation est d'être médecin, l'autre que sa vocation est d'être cordonnier. Peut-être que l'un et l'autre, finalement, auraient mieux fait de faire ce qu'ils ont cru discerner comme vocation, mais qu'importe. Qu'importe si, avec leur cœur, dans la sincérité de leur prière, de leur réflexion, de leurs sentiments, ils décident d'avancer ainsi, ils sont l'un et l'autre dans la vérité. Et alors, dans cette sincérité qui est la leur, dans leur erreur au sens grec du terme peut-être, mais dans cette fidélité, cette vérité au sens biblique du terme, Dieu pourra travailler en eux peut-être, et les ressusciter, et les faire avancer, et les rendre de plus en plus fidèles et vrais. Donc oui, nous pouvons, comme Pilate, nous laisser mettre en mouvement ainsi par le Christ, par son évangile, par cette vérité qu'il est, qu'il incarne, cette recherche, ce questionnement, ce mouvement qu'il est. Et dans ce sens, Jésus-Christ est plus un point de départ que le sommet ultime. En fait, il est peut-être les deux, mais dans l'évangile, et nous le voyons ici, il est plus un point de départ, une mise en mouvement. Mais cela se voit souvent dans cet évangile selon Jean. Par exemple, la Samaritaine, quand elle découvre que Jésus est le Fils de Dieu, aussitôt elle lui tourne le dos pour aller l'annoncer à ses frères et sœurs. Et Marthe de même, Marthe, quand Jésus parle avec elle de la résurrection, de sa résurrection à elle finalement, elle finit par arriver à confesser sa foi et à dire « Je crois que tu es le Fils de Dieu » et dans le même mouvement, elle lui tourne le dos pour aller dire à sa sœur « Le Maître est là et il t'appelle ». Et ici encore, nous voyons Pilate dans un même mouvement reconnaître en Christ la vérité finalement, ou plutôt s'ouvrir à un questionnement sur cette vérité dérangeante qu'est le Christ, et aussitôt, il lui tourne le dos pour aller témoigner auprès des autres de cette vérité qu'est le Christ. Et finalement, je crois que c'est cela, le Christ, il nous libère, si vous voulez, non pas pour nous enchaîner à sa botte, comme le ferait un gourou ou comme le ferait un sage, l'enchaîner dans une doctrine, l'enchaîner dans un mouvement de disciples, finalement scotché derrière son maître, mais non, il est dans une source de vie, une source de résurrection qui fait que ceux qui le découvrent sont mis en mouvement par leur propre force, par leur propre mouvement, un mouvement de fidélité, un mouvement d'espérance et de vie pour témoigner auprès des autres. Eh bien, ce soir, au pied de la croix du Christ, que notre questionnement soit celui de la recherche d'une vraie fidélité, d'une espérance profonde qui nous met en mouvement et qui nous ressuscite un peu. Amen.